Vous écoutez
RMC.
RMC.
Elle avait besoin de cette victoire pour se remettre un peu la tête à l'envers.
Voilà, on doit relever la tête de l'eau et avancer.
C'est-à-dire qu'ils ont un peu la tête dans le tapis, comme on dit.
Daniel, je te le dis en pleine tête.
Ça fait du bien un petit peu à tout le monde. Ça nous a remis les épaules sur la tête.
Ils sont fait dominer de la tête et des pieds.
On a rappelé des mecs qui avaient quand même les épaules sur la tête.
On a arrêté là-dessus.
RMC, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RMC. L'After est là jusqu'à minuit pour analyser les résultats, l'actualité du jour avec du mercato encore au programme. On va longuement débattre, notamment autour des résultats de la soirée et bien sûr, notamment le match nul de l'Olympique Lyonnais face au HAC. Il s'est passé plein de choses, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez sur la chaîne YouTube de l'After, sur la chaîne After Télé. Et ce soir dans l'After, Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Walid?
Très bien, on a vu un super multiplex. Contrairement à ce qu'on avait vu la semaine dernière, voilà, on a, franchement, il y a eu des retournements de situation, des intentions un peu partout, même si on n'a pas pu tout voir. Mais ouais, content, on a passé une très belle soirée.
Elle nous fait plaisir, cette Ligue 1. Maxime ouais. Chano est là également dans l'After. Salut Max.
Salut Jérôme, salut Walid, salut à tous.
Tu t'es régalé pendant ce multi avec Karim.
Ouais, ouais, super, on a vu énormément de buts, donc c'est cool, c'est cool. La Ligue 1 se porte bien.
On vous attend au 32-16, les supporters, pour analyser le résultat de votre équipe. Vos messages également sur WhatsApp au 06-12-424-424. Ce soir, donc, Lyon-Le Havre, un partout. Toulouse-Brest, deux partout. Ça se passait au stade Francis Leblé. Auxerre a été battu par Angers 3 buts à 1. 3 l'a emporté à Lorient 2 buts à 1. Et puis, cet après-midi, Strasbourg avait battu Lens 2 buts à 1. On va en parler avec vous, les supporters lyonnais, lensois, tous les supporters. Appelez-nous au 32-16 sur le WhatsApp également. C'est parti pour l'After. Et on va tout de suite commencer par les 3 points, peut-être. Allez, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Ah ouais.
Walid.
Premier point, c'est Lyon, l'OL de Fonseca qui se fait piéger par le Havre. Ils auraient pu gagner ce match-là, ils auraient pu le perdre aussi ce match-là. Insuffisant, prestation lyonnaise insuffisante et qui doit être comparée aussi avec la communication de Fonseca sur les derniers jours. Mon deuxième point, c'est Lens face à Strasbourg, aussi très beau match à 17h15, mais Lens qui s'est fait bouger par une équipe strasbourgeoise complètement différente de ce qu'on a vu au Vélodrome. Et il y a des gros problèmes défensifs. Il va falloir vraiment recruter derrière parce que je trouve cette équipe fébrile, surtout avec la volonté de jouer vers l'avant de Top Moller. Et mon troisième point, c'est Strasbourg. C'est Strasbourg qui, avec Jessim Yassin, Reina, le clone de Panicelli devant, Ortega, j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Strasbourg après la deux culottée qu'ils ont pris au Vélodrome la semaine dernière.
Max.
Ah bah écoute, moi je vais commencer par Lyon hein, qui sont fait encore une fois bousculer. Une drôle de semaine hein, pour les Lyonnais hein, déjà après avoir perdu un match capital contre Fenerbahçe. Là c'était compliqué face à Des Havre. Alors le point positif c'est que j'ai le sentiment que le 11 type de Fonseca se crée de mieux en mieux, de plus en plus. Là on commence à voir un 11 qui se dessine, donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais c'est clair que ça a été une semaine très très compliquée pour les Lyonnais. Mon deuxième point c'est bah, soit Lens soit Strasbourg, ça dépend de quel côté tu te places, mais clairement j'ai trouvé des Strasbourgeois exceptionnels, je dis le terme, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière contre l'Olympique de Marseille. Ils m'ont fait plaisir et notamment avec leur quatuor offensif. D'un autre côté, je dois t'avouer que j'ai eu très très peur pour la défense de Lens. J'en avais parlé un petit peu et la semaine dernière j'avais dit que Lens aurait des gros problèmes défensivement s'ils ne recrutaient pas. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. Et puis mon troisième point, tu m'avais dit Jérôme qu'on n'avait pas parlé assez des petites équipes entre guillemets, et j'ai envie de mettre l'accent sur Troyes, voilà, qui vient de signer sa première victoire de la saison. Voilà, bienvenue en Ligue 1.
4 points de match.
Exactement, bienvenue en Ligue 1. Ils nous montrent aujourd'hui la raison est en tout cas pour laquelle ils ont été promus à la suite d'une très très belle saison l'année dernière en Ligue 2.
Et on aurait pu parler d'Angers aussi hein, qui s'est imposé 3 buts à 1 et qui a montré de belles choses.
Un super match.
Ouais.
Super match.
On s'est régalé aussi. On avait le deuxième écran sur Auxerre Angers. C'était très sympa avec Olivier.
Auxerre attention.
Auxerre attention. Will Steele attention.
Il y a déjà des messages sur le WhatsApp qui nous disent Will Steele sera le premier entraîneur à sauter. Il finira pas la saison.
Qu'est-ce que j'avais dit?
On va être prudent. On va attendre. Mais attention. Parce que perdre à Angers de cette manière, parce que deuxième mi-temps, ils ont pris des vagues. Parce qu'il y a eu des occasions de parer.
Après, Auxerre, c'est. Alors, ils ont été pas mal sur les. On y reviendra un peu plus tard. Ils ont été pas mal sur les 10-15 premières minutes, notamment dans les intentions de jeu. Après, Will Steele s'est limité tactiquement. Moi, j'avais dit qu'il était surcoté. Attention, j'ai pas envie de faire un débat sur un entraîneur qui vient seulement d'arriver. C'est le début pour lui dans ce nouveau club.
On va attendre.
Mais quand tu regardes ce qu'avait fait Pélissier l'année dernière avec l'effectif et que tu décides de te séparer de Pélissier pour mettre un Hulstil qui a pas forcément énormément de références, bah, après deux matchs, tu te rends compte que ça risque d'être compliqué pour les Auxerrois cette saison.
Deux résultats à l'étranger également. Vous dire que la Juventus s'est imposée 2-0 face à Parme avec des buts de Nicolas Gonzalez et de Kopmeiners. Kolomoigny était titulaire.
Oh, Kopmeiners qui met des buts.
Kopmeiners, effectivement, qui est entré en cours de jeu.
Okay.
Alors que le duo d'attaque, c'était Kolomoigny, Jonathan David.
Okay.
Et puis, en Espagne, l'Atlético de Madrid mène 3-0 sur la pelouse du Séville FC avec un doublé de Baena, le champion du monde espagnol, et un but d'Ademola Lookman. Kanginli est titulaire dans cette équipe des Colchoneros. Voilà pour les résultats en cours à l'étranger. C'est fini hein, pour la Juve. On joue l'heure de jeu en Espagne entre Séville et l'Atlético de Madrid. Alors Lyon tenu en échec un partout ce soir par Le Havre. On vous attend les supporters lyonnais au 32-16. Semaine compliquée évidemment après l'élimination en barrage de Ligue des Champions, après les propos de Paulo Fonseca hier. On n'a même pas eu le temps d'en parler dans l'after hier soir les garçons. Paulo Fonseca qui disait hier être le meilleur entraîneur des dernières années à l'Olympique Lyonnais, chiffre à l'appui, chiffre contestable d'ailleurs, puisque Pierre Sage et Rudy Garcia par exemple ont pris plus de points que lui, toutes compétitions confondues. Ce soir, qu'est-ce que vous avez pensé de l'Olympique Lyonnais qui a beaucoup attaqué, qui a eu aussi beaucoup d'occasions, qui s'en sort bien finalement avec ce deuxième but refusé au Havre, mais en même temps c'est vrai qu'on a aussi refusé un but à l'Olympique Lyonnais.
Insuffisant, prestation insuffisante. Alors oui, le début de match, ils ont deux énormes occasions coup sur coup avec celle de Tolisso et de Loïs Openda, mais je trouve que plus on avait avancé dans cette première mi-temps, plus l'OL s'était endormi, et j'ai trouvé moi la pression du Havre emmenée par encore une fois un excellent Didier Digard tactiquement. J'ai trouvé qu'ils ont mis en difficulté cette équipe. Ils n'ont pas subi la foudre lyonnaise dans un parc OL qui peut faire peur à ce type d'équipe qui doivent jouer le maintien. Moi j'ai pas senti ça. J'ai encore une fois vu des problèmes au milieu de terrain comme cette semaine contre Fenerbahçe, et pourtant au milieu de terrain il y a eu un peu de changement avec Bidstrup qui a eu un pressing ou deux gagnant en première mi-temps, mais on a toujours un gros problème avec Tolisso. Moi je comprends pas son poste. Aujourd'hui Tolisso est un buteur quoi, il est un finisseur, sauf que dans sa position l'OL doit avoir un relais supplémentaire au milieu de terrain pour créer le jeu, et je le ressens pas avec Tolisso. Il y a le petit Boudage qui a joué de l'autre côté par rapport à ce qu'il avait fait contre Toulouse, parce que Fofana a été préservé. Voilà, ils ont essayé hein, lui et Nouama, mais globalement j'ai pas vu Mpassi faire 10 arrêts dans la rencontre, toucher deux fois le poteau, et puis surtout il y a ce but hors jeu refusé qui aurait pu il y a une main refusée qui aurait pu donner la victoire au Havre. Ils se font piéger. Moi je trouve que c'est pas suffisant par rapport à l'équipe que tu as sur le terrain, par rapport aux ambitions lyonnaises, et surtout par rapport à ce qui s'est passé cette semaine où tu dois réagir. Non vraiment, moi j'ai pas du tout aimé le match de l'Olympique Lyonnais.
Alors déjà pour moi il y a deux facteurs à prendre en considération, et notamment le fait qu'ils aient joué quoi il y a 3 jours. Déjà c'est même très surprenant de les voir jouer le samedi. J'aurais possiblement pensé que la Ligue aurait adapté leur calendrier, les aurait au moins fait jouer dimanche.
Oui, bon, dans ça, la mesure où il n'y a pas de match la semaine prochaine.
Exactement,
semaine,
je pense que la Ligue aurait pu faire quelque chose pour ces Lyonnais. Bon, on n'en reviendra pas sur les choix de la Ligue qui sont parfois un peu contestables. Là où je rejoins Walid, c'est vrai que par rapport à l'effectif et par rapport au 11 de base qui avait été concocté par Fonseca, c'est insuffisant, parce que j'ai beaucoup de respect pour le Havre. D'ailleurs, on y reviendra. Et Walid l'a aussi mentionné. Je pense que le travail que fait Didier Digard, Rasoul Ndiaye a été très très bon. Le petit Richardson là qui revient, qui est en prêt de la Fiorentina, qui a été formé d'ailleurs au Havre et qui revient et qui est très très intéressant. Bref, cette équipe du Havre qui a quand même pas mal de joueurs de qualité. Je pense sincèrement qu'ils vont faire une saison intéressante. Donc pour revenir à Lyon, non, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de fatigue. Il y a aussi, moi j'étais inquiet par rapport à l'aspect mental, parce que bon, il faut pas oublier que c'était quand même un match capital pour cette qualification en Ligue des Champions, et notamment économiquement parlant. Et donc c'est vrai que je savais pas dans quelle mesure et dans quelle dans quelle fraîcheur physique et mentale ces Lyonnais allaient venir. Et ce qui était intéressant, c'est que je trouve que Fonseca a fait des bons choix, notamment le fait d'avoir fait rentrer Atekame dans le 11 titulaire. Je suis archi pas fan de Barreur. Je sais qu'on en avait parlé potentiellement pour remplacer Kluivert et pour remplacer un Clinton Mata qui avait été très moyen au Sparta Prague. Mais c'est vrai que tous ces joueurs qui arrivent d'Autriche, qui arrivent de Suisse, qui arrivent de Belgique et d'Hollande, avec tout le respect que j'ai pour ces championnats, mais c'est toujours un pari, c'est qui tout double quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, même si c'est vrai que financièrement t'as besoin de trouver des paris, t'as besoin de trouver des bons coups, c'est toujours un petit peu risqué.
C'est leur filière. Robin Kluivert vient du Portugal.
Venait
du Portugal.
Et attention, il faut absolument pas critiquer ce genre de championnat. J'y ai joué. Je sais qu'il y a énormément de très bons joueurs dans ce genre de championnat de seconde zone. Pour un club comme l'Olympique Lyonnais qui inspire en tout cas à retrouver le top de la Ligue 1, je suis pas convaincu que ça soit forcément un bon choix. On va lui laisser un peu de temps. Donc tout ça pour te dire que il y a des bonnes choses. J'ai bien aimé l'abnégation des Lyonnais qui ont été menés deux fois au score entre guillemets, même s'il y a eu des buts refusés. Ils sont revenus. Moi, je suis pas d'accord avec Walid par rapport à Tolisso. Alors certes, c'est vrai qu'il se cherche un petit peu sur le terrain, mais je trouve que c'est quand même le fer de lance de cette équipe lyonnaise. Non, il n'hésite pas. Je le vois même dans son body language.
Pas le grand
dans son body. Oui, mais évidemment, mais c'est parce qu'il va avoir des hauts et des bas. La saison, tu peux pas être régulé sur 10 mois.
Pour l'instant,
j'ai trouvé.
Il va sûrement monter en puissance, mais pour l'instant, c'est un handicap.
J'ai trouvé un Tolisso intéressant, en tout cas dans son leadership. Là où, par contre, moi, j'étais aussi agréablement surpris, c'est par Bidstrup. C'est vrai qu'on critique beaucoup Tessman. Bidstrup, son apport a été intéressant, mais c'est vrai qu'en règle générale, quand tu regardes le 11 qui a été mis en place, sans un Malik Fofana qui est sur le point d'être transféré, je trouve que c'est un 11 qui commence à avoir de la gueule.
Il y avait 5 changements par rapport
Il faut laisser du temps à cette équipe lyonnaise, mais j'ai bon espoir en tout cas qu'ils arrivent à trouver les automatismes et en espérant qu'ils fassent évidemment une bonne saison, sachant qu'il va falloir qu'ils digèrent encore une fois cette déception de la non-qualification en Ligue des Champions.
Là, on débriefe le match de ce soir, mais ce soir, c'est insuffisant individuellement et collectivement. Il n'y a pas assez d'occasions. Quand il y a des occasions, moi, je trouve qu'il y a des gros loups. Il y a des gros ratés de la part des attaquants, même si Openda se reprend bien sur le but, il en a quand même deux énormes. Moi, je trouve que sur l'arrêt de Mpassi qui revient vers lui, je pense qu'un attaquant de son niveau peut la mettre. Celle qu'il a aussi en première mi-temps, parce que ça peut changer totalement la physionomie du match, et il est là pour ça aussi, il doit la mettre. Tolisso, la même chose, il doit faire je vais pas lui apprendre à marquer un but à Tolisso, il sait très très bien le faire, mais un Tolisso buteur doit la mettre au fond. Et quand tu maximises pas ton mini temps fort que tu as eu en début de match, bah derrière tu te mets un peu en difficulté, surtout que l'OL en ce moment n'est pas en grande confiance, parce que même en faisant un bon match à l'aller contre Fenerbahçe, tu le gagnes pas, et ça doit aussi jouer dans les têtes. Et puis on a parlé d'Atekame qui défensivement, physiquement était plus fort que Maitland Niles. Il se fait aussi prendre sur le but de Samata,
et d'ailleurs quasiment sur la même action.
Ouais. Moi j'ai dit très la semaine dernière il faut mettre Atekame, et pourtant il a fait plutôt un bon match, hein, Atekame. Je pense qu'il est meilleur que Maitland Niles, en tout cas il est plus concerné que Maitland Niles, mais il y a aussi encore des déconnexions devant le but qui te coûte des matchs. Et puis tu as surtout un Griffe qui en première mi-temps te fait un énorme arrêt sur Rasoul Ndiaye. Ouais. Moi je trouve que Le Havre a joué au football au Parc OL de manière trop facile. C'était trop facile pour Le Havre de dérouler son jeu en transition, et sincèrement j'attendais Lyon un peu plus fort, surtout qu'il faut le dire. Oui, bien évidemment qu'ils ont joué mercredi, mais Lyon a repris quand même depuis 2-3 semaines. Contrairement au Havre, par exemple, ils ont beaucoup plus de matchs dans les jambes. Et à ce moment-là, normalement, tu dois être meilleur pendant une bonne partie du match. Et j'ai pas trouvé, en fait, hormis les 10-15 premières minutes sur la première mi-temps, j'ai pas trouvé une équipe qui doit jouer le top 3 face à une autre équipe qui va devoir jouer 15-18, quoi. Je l'ai pas ressenti sur le match. Et ça, c'est pas normal quand tu t'appelles l'OL et quand tu es coach de l'Olympique Lyonnais.
Dans un instant, André qui nous a appelé au 32-16, le standard RMC évidemment, pour réagir. L'after est là jusqu'à minuit avec Walid Acharchour, avec Maxime Chano. On vous rappelle le match nul de Lyon face au Havre, un partout. On continue à en parler dans un tout petit instant. 3 l'a emporté à Lorient de Buzyn. Match nul de partout entre Brest et Toulouse, et la victoire d'Angers à Auxerre 3-1 cet après-midi. Strasbourg avait battu le RC Lens 2-1. On en parle également avec vous dans quelques instants. L'after est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
Avec Walid Acharchour, avec Maxime Chano, avec vous au 32-16, au WhatsApp également. L'after est là jusqu'à minuit pour analyser notamment le match nul un partout concédé par l'Olympique Lyonnais face à 3. Ça aurait pu être une victoire de l'OL, ça aurait pu être une défaite également. Finalement, c'est un point pris. Max, et ensuite on accueille André.
Ouais, non, c'est intéressant aussi de d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé en défense ce soir contre le Havre, parce qu'on avait critiqué contre le Fenerbahçe notamment trois postes, c'est-à-dire l'arrière droit Maitland Knights, Kluivert l'axe droit et puis Amner l'axe gauche, qui ont été remplacés pour poste par Aketamé, par Barreur et par Tagliafico. Et finalement c'est peut-être aussi les trois moins bons Lyonnais ce soir. C'est vrai que j'ai encore l'image de cette action de Rasoul Ndiaye qui efface trop facilement un Tagliafico qui normalement a énormément d'expérience et qui devrait normalement encore une fois gagner ce duel très très facilement. Ça n'a pas été le cas, donc je me pose aussi la question sur pas forcément sur la qualité, mais peut-être aussi sur la structure qui est mise en place par Fonseca. Il avait fait le choix justement d'enlever un Tesman pour mettre un Bidstrup, et c'est la raison pour laquelle je veux pas trop tirer la sonnette d'alarme, je veux pas m'alarmer, parce qu'on sent vraiment que ça manque d'automatisme. C'est des joueurs qui viennent d'arriver, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément aussi la connaissance, et je parle de Barreur et d'Aketamé, la connaissance de la Ligue 1, donc il faut leur laisser du temps. Il faut leur laisser du temps. Walid parlait un petit peu de l'aspect physique. En effet, ils ont été très bons sur les 10-15 premières minutes, en tout cas, ils ont été supérieurs. C'est aussi justement parce qu'au fil des minutes, les Lyonnais ont commencé à subir physiquement, et on l'a vu, il y a eu énormément d'actions des Havrais. C'est aussi parce que le bloc lyonnais était trop écarté, on l'a vu sur des 2-3 occasions où est-ce que le bloc était coupé en deux, t'avais les 4 offensifs qui avaient énormément du mal à revenir sur les transitions offensives du Havre, et derrière ça créait des espaces pour les Havrais qui ont évidemment très très bien joué le coup, et on y reviendra un peu plus tard aussi, parce qu'il faut vraiment mettre en avant ce qu'a fait Digard sur ce match-là, ce qu'il fait depuis la saison dernière notamment au Havre, et il y a des très très bonnes individualités au HAC.
Mais moi en fait ce qui me dérange c'est le milieu de terrain. Moi je répète, mais le milieu de terrain n'est pas fonctionnel. Morton, je suis très déçu. Morton, il fait des matchs cristallines, hein. C'est neutre, hein. C'est plat, hein. c'est de l'eau plate. Hein. C'est,
Vous trouvez que contre le Fener, par exemple, au match aller, c'était...
Pas assez. Ah ouais. Par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière dans la bonne période de Morton.
Ouais, mais c'est pareil,
c'est pas assez.
Mais je suis d'accord avec toi, Wally, mais t'es d'accord avec moi. Il y a une histoire de montée en puissance. Déjà, il l'a replacé en point de base, et c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien.
Montée en puissance, l'OL, quand même, devait démarrer cette saison tambour battant. Il y avait des objectifs clés, avec 40 bâtons à la clé cette semaine, et puis tu joues quand même le Havre la maison. Là, la semaine dernière, tu avais mis ton équipe B. Moi, j'aurais été indulgent s'il y avait eu défaite contre Toulouse. Là, c'est ton premier match au Parc OL en Ligue 1. Tu joues le Havre, belle équipe du Havre, il n'y a pas de souci. Mais bon, on ne va pas comparer quand même la valeur marchande de certains joueurs à Lyon et au Havre quand même. Tu dois quand même être supérieur. Encore que à Fenerbahçe, on peut expliquer les gros salaires, les Lukaku, les Kanté, ce que vous voulez. Mais là, au Havre, non, il n'y a pas ça. Et je répète, je vais faire mon énumération du milieu de terrain. Mais Tolisso, je ne vais pas insister là-dessus. Mais pour moi, Tolisso, de toute façon, même depuis la fin de saison, Tolisso est un joueur à image. Aujourd'hui, Tolisso, c'est un buteur. C'est un mec qui va être dans la surface de réparation, qui va arriver lancé, qui va pouvoir changer les matchs de l'Olympique Lyonnais. Par contre, dans la construction, dans le rôle qu'on peut lui demander au poste de milieu de terrain, défensivement et offensivement.
Mais je te trouve très dur.
Ah non, mais moi, techniquement, il n'a plus le. L'apport du standing qu'il devrait avoir.
C'est largement suffisant pour Lyon. Il nous l'a montré sur les matchs en Europa League.
Aujourd'hui, il disparaît des circuits. Ouais. Morton, dès qu'il a le ballon, en fait, vu que Bidstrup, en fait, tu vois le milieu de terrain. Bidstrup, on l'a bien compris, c'était un mec qui allait chasser le porteur de balle, qui voulait presser. C'est un joueur Salzbourg, quoi. C'est l'école Red Bull. On a bien compris. Par contre, avec le ballon, il te fera pas de différence ou très très peu ou à la marge, d'accord. Morton, lui, ça doit être ce joueur milieu reculé qui peut jouer.
Je trouve qu'il n'y a pas assez d'apport
parce que il n'y a pas assez de mouvement et de solutions.
Et donc Tolisso est censé être le relayeur.
Je ne comprends pas son rôle. Il est soit beaucoup trop haut, soit caché, soit dos au but. Et heureusement que ce soir sur la première mi-temps, t'as quand même le petit Boudache et Noama que j'ai pas trouvé mauvais moi. Que sur la première mi-temps, c'est lui qui fait notamment cette petite passe pour Tolisso qui essaye de faire les différences. Mais sauf que les mecs qui sont dans des 1 contre 2 à chaque fois parce que le milieu de terrain n'est pas assez dominant ce soir. Si tu fais la différence entre Rasoul Ndiaye, Simon Ebonog et Richardson, même Mwanga qui pouvait faire l'escalier entre la défense centrale et le milieu de terrain et le milieu lyonnais, t'as senti un décalage entre les deux équipes?
Non, je suis d'accord que
c'est
le
pas
Havre...
normal.
Parce que les Lyonnais étaient en infériorité numérique dans l'axe du milieu de terrain. Aussi parce que Tolisso a justement ce devoir de dépassement de fonction où est-ce qu'en règle générale, il vient accompagner et mettre la densité dans la surface adverse. Et là, je te l'accorde, à terme, si Tolisso continue à jouer comme ça, malheureusement, il n'est pas en mesure à son âge de pouvoir faire cet apport offensif et cet apport défensif. Mais c'est la raison pour la, c'est la raison pour laquelle Fonseca a décidé de mettre Bidstrup justement pour compenser un petit peu ce que Tolisso n'est plus en mesure de faire par rapport à ce qu'il fait en contrepartie, c'est-à-dire son apport offensif.
Peut-être qu'il faudrait le mettre carrément en faux avant-centre quand Tolisso, ça pourrait être la solution.
Il y a Openda.
Oui, non, non, il a fait ça l'année dernière, ça poserait le problème de Tsouch,
mais faut pas oublier que l'année dernière dans la bonne période, il faisait le carré, il était très très content d'avoir Tolisso très très haut
parce qu'il n'avait pas le choix.
Mais je
pense que Tolisso, un peu à la Bellingham sur les 6 premiers mois du Real Madrid, je pense qu'il s'est acclimaté à ce rôle-là, le fait d'être le joueur décisif, buteur, mais il en a abandonné. Si tu regardes bien le but, pas de Maja, c'est le but du japonais,
Nakamura.
Refusé. Ouais. Regardez
Tolisso, ouais,
regardez Mwanga sur, regardez ce que fait Tolisso sur Mwanga.
Bien sûr, parce que c'est, mais je l'ai dit, Walid, c'est les 10 dernières minutes du match, le bloc s'est écarté, mais je suis d'accord avec toi, mais en fait, il faut prendre en considération le facteur fatigue de Tolisso et de toute l'équipe lyonnaise.
Il doit pas jouer 90 minutes de
Et là, d'accord, on est d'accord.
C'est la gestion de Fonseca, il doit le sortir.
Exactement,
il doit
sortir alors.
André est avec nous au 32-16. Salut André.
Bonsoir les gars, vous allez bien?
Ça va et toi? Bon, tu vois que l'after est chaud ce soir. Pourquoi tu voulais nous appeler?
Ouais, moi je veux dire que je suis pas trop d'accord avec Max. Je trouve qu'il est trop gentil sur l'OL et plutôt d'accord avec Walid. Moi je nous trouve mauvais, trop faible. Voilà, hier j'ai regardé Lille PSG. Cet après-midi, j'ai regardé Strasbourg-Lens. Et je trouve que la différence de niveau, elle est trop flagrante.
Ah, je suis pas en train de te dire, attention, hein, je suis pas en train de dire que Lyon m'a convaincu et que Lyon est très bon. J'ai juste dit un peu plus tôt qu'il faut laisser du temps à Lyon et qu'il faut comprendre actuellement dans quelle situation sont les Lyonnais, c'est-à-dire qu'ils viennent d'avoir la plus grosse désillusion de la saison en perdant contre le Fener et qu'il y a sûrement une fatigue physique et morale. C'est tout.
Peut-être. Mais on est à domicile contre le Havre et je trouve qu'on manque d'intensité par rapport aux deux autres matchs que j'ai vus parce que j'ai regardé Lille PSG Strasbourg-Lens. Je me suis régalé.
T'as raison.
10 minutes. J'ai regardé l'OL, mon club de cœur, depuis que je suis dans le ventre de ma mère. On s'est fait chier avec mes frères et mon père. C'est la mort. Il manque d'animation collective, il manque d'intensité, de pressing. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se voit trop beau par rapport à l'année dernière, avec l'exploit qu'on a fait finir quatrième. Et on est la moins bonne équipe du top 4. Voilà, je suis d'accord avec Walid, notre milieu de terrain, il fonctionne pas. Tolisso trop en impact player, comme dit Walid. En fait, t'as l'impression qu'il est là juste pour les 30 derniers mètres, mais il descend pas.
Ah, il va en mettre début de cette saison, tu verras, il va en mettre, hein, parce qu'il sera important.
Et
j'en parlais avec Jérôme pendant le match, je pense que techniquement, ce qu'il fait de mieux, c'est sa finition. C'est-à-dire que dans le dernier geste, il est très très fort encore une fois. Par contre, tu vois des passes dans la densité, tu vois des passes à 3 mètres, des transversales, des transmissions, mais c'est pas Tolisso.
C'est un milieu de terrain.
C'est un milieu de terrain là-bas.
On parle d'un attaquant qui va marquer des buts.
Non, on parle d'un milieu relayeur qui vient aider Openda sur les transitions.
Il y a qu'une box. La deuxième box, c'est box.
C'est la free box sans la DSL.
Mais vraiment. Après, il n'y a pas que Tolisso. Mais non, j'ai pas envie d'insister là-dessus. Maintenant, là où tu as raison, c'est vrai que sur le facteur intensité, même intention, je trouve, de la part du coach. Et après, on va mettre ça en corrélation avec sa communication désastreuse cette semaine. C'est que tu regardes Strasbourg, tu regardes même l'OM la semaine dernière contre Strasbourg, tu regardes Lille la première mi-temps, tu regardes même Lens par moment. Je trouve que c'est beaucoup plus fonctionnel. Alors attention, on est dans la culture de l'instant.
Ouais,
il faut bien insister.
La semaine dernière, on disait l'inverse.
Excuse-moi. La semaine dernière, moi, j'ai dit que pendant une heure de jeu, tu t'es fait. On s'est même embrouillé avec un auditeur lyonnais. J'ai dit que t'étais en difficulté, t'étais beaucoup
à
plus
Toulouse.
Du 1-0 au Toulousain que de l'inverse.
Ouais, mais c'est différent. C'est pas du tout le même 11. Non, je te parlais de la semaine dernière par rapport à Strasbourg.
Ah d'accord. Voilà, bien évidemment. C'est pour ça que
c'est la culture de l'instant.
Pour l'instant, on n'a pas d'avis tranché. On tire pas des enseignements, mais on est là pour raconter ce qu'on voit. Et je dis juste que quand Maxime me dit oui, mais faut laisser du temps. Non, je suis pas d'accord avec cette phrase. Lyon devait être l'équipe la plus prête de Ligue 1 sur ce début de saison. Et sur l'aspect physique, Lyon a fait tourner toute son équipe la semaine dernière. Ça va aller, quoi. On n'est pas en février, on n'est pas en mars. L'année dernière, tu me dis, attends, les mecs, ils ont fait 13 victoires d'affilée, ils font 1-0 timide à Nantes. Bah là, je dis, attendez les gars, bravo, super, incroyable, vous êtes dans la résilience. Mais là, c'est pas le cas. Là, on va se calmer. Si au bout de trois... Moi je suis désolé, si tu me dis au bout de deux semaines de démission d'RMC que je suis mort, il y a un moment, non, c'est pas normal, c'est pas possible.
C'est alors que t'as fait beaucoup la fête pour les vacances.
Non, mais je sais que c'est pas mon cas.
André, qu'est-ce que tu veux ajouter ?
là, on juge Fonseca pas sur deux matchs. Fonseca, ça fait presque deux ans qu'il est là, quand même.
Qu'est-ce que tu as pensé d'ailleurs de sa sortie hier, là, en conférence de presse, de veille de match? Est-ce que ça traduit pas quelque part une sorte de fébrilité chez lui de vouloir justifier son bilan par des chiffres qui, en plus, sont interprétables de manière différente?
Ce qu'il a dit, ça veut tout et rien dire. Qu'il est le meilleur entraîneur de l'histoire récente de l'OL. Pour moi, il n'a pas fait mieux que Pierre Sage, par exemple. Il n'a pas fait mieux que Ginesio, qui était dans le top 3 une année sur deux. Moi, je comprends pas sa déclaration.
Ça après, il a fait un résultat meilleur que Pierre Sage. Actuellement, il a fait quatrième.
Après, c'est vrai que dans le jeu, Pierre Sage était quand même, c'était un peu plus attrayant quand même.
Huitième à quatrième, il a fait finale de Coupe de France.
Voilà. Oui, mais surtout, il est passé de 16e à 6e. Il n'a pas pris l'équipe de la même manière. Donc, encore une fois, tu peux retourner dans tous les sens. Moi, ce que je comprends pas surtout, c'est que. C'est qu'en fait, après une élimination contre le Fener de cette manière, quand tu commences à être dans le combat médiatique, quand tu commences à être dans l'ego, quand tu commences à sortir ton bilan, c'est jamais bon signe. On se rappelle de Mourinho, voilà, quand il disait respect, j'ai autant de Premier League que tous les autres entraîneurs, c'est jamais bon signe. Normalement, c'est ton travail qui doit parler, ouais, c'est le terrain qui doit parler, et encore plus quand ce soir tu frises la correctionnelle avec une possible victoire du Havre dans les dernières minutes. Donc tu peux te reprendre cette communication pendant toute la saison en boomerang. C'est un peu comme ce qu'avait fait Bruno Chéroux à l'époque, c'est sur le côté c'est pas anodin, pas rap. C'est des phrases ça de communication. Moi, il faut pas y aller, surtout pas. Ça te met en danger tout seul.
Et surtout qu'il se contredit sur.
Exactement. Et puis surtout, moi je répète, mais là.
Tu peux le faire à la rigueur, mais tu peux le faire après une victoire.
Bien sûr.
Juste après une victoire. Si OL avait gagné ce soir, par exemple.
Il y a sûrement un peu de frustration, c'est normal.
Et puis il peut pas se mettre le feu tout seul. Comme ça, en fait.
Et moi, j'ai un gros problème
avec Fonseca, Jérôme, tu sais. C'est qu'un peu comme De Zerbi à l'Olympique de Marseille, c'est que moi, et je pense que ça a été un problème à l'Olympique de Marseille, c'est que De Zerbi se pensait plus grand que le club. Et je pense que Fonseca, il sait très bien que par rapport à son salaire, par rapport à son statut, par rapport à la situation de l'Olympique Lyonnais, qu'en fait, qui va lui dire quoi en fait à l'OL?
Bah c'est sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui Mathieu Lujan, qui a eu une trajectoire particulière au club, est-ce qu'il est en mesure aujourd'hui de taper du poing sur la table en disant Paolo, moi je suis pas content des résultats? Non, moi j'aime pas cette communication. On parle quand même d'un coach, et moi je l'adore à la base, mais il y a un moment, il faut dire les choses. C'est quand même l'entraîneur le mieux payé derrière Luis Enrique en Ligue 1. C'est quand même un entraîneur qui a repris cette équipe-là quatrième quand il remplace Pierre Sage, et avec une équipe de fou, hein, avec Miko Tadze, avec Cherki, avec tout ça, avec Lacazette, Malik Fofana. C'est un mec qui a terminé 6 ou 7e la première saison. Donc il faut aussi à un moment donné se dire que l'Olympique Lyonnais, tu n'es pas au-dessus de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est quand même un club important de Ligue 1, et on a le droit de critiquer ton boulot, on a le droit de ne pas être content quand ça gagne pas, quand on comprend pas ton système de jeu, on a le droit de le questionner, c'est pas très très grave. On a dit beaucoup de bien de Fonseca la saison dernière, on a le droit aussi de dire l'inverse. Et quand tu es dans cette posture-là, c'est jamais bon signe pour un club. Ouais,
merci André.
Le rapport de force entre l'Olympique Lyonnais et Fonseca est clairement à l'avantage de Fonseca, pour la simple et bonne raison qu'Walid l'a dit, c'est son salaire. C'est qu'aujourd'hui, économiquement parlant, l'Olympique Lyonnais ne peut pas se permettre de se séparer d'un Fonseca. Là où, par contre, moi j'ai envie de prendre sa défense, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais j'entends son bilan par rapport à ce qu'avait fait Pierre Sage. Mais il faut pas oublier aussi que le mariage entre Fonseca et l'Olympique Lyonnais est un mariage qui marche. Dans un premier temps, n'oublions pas que Lyon a soutenu Fonseca quand il a été suspendu pendant 8 mois. De l'autre côté, Fonseca est resté au club alors que Lyon, rappelons-le, ils étaient quand même relégués administrativement parlant en Ligue 2. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est une situation de win-win. Alors certes, on l'a dit un peu plus tôt, j'ai fait un avis il y a 2-3 jours en disant que la défaite de Fonseca était en partie à cause de lui, mais pas que, c'est aussi les protagonistes, c'est les joueurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde actuellement ce qui s'est passé tout à l'heure avec ce match contre Lyon, il faut aussi savoir blâmer les joueurs. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Moi, j'ai mis en avant le facteur physique, parce qu'on parle de Tolisso. Tolisso, il a un certain âge. Tolisso, il a joué 2 saisons. Il faut pas oublier que Tolisso, lorsqu'il arrive à Lyon, il est dans une pente descendante. Ça fait X années que Tolisso il tourne à plein régime. Est-ce que tu peux pas lui laisser quelques semaines, quelques mois pour qu'il rebondisse et qu'il derrière retrouve la forme?
Rôle du coach.
Et donc, c'est ça aujourd'hui. Et c'est la même chose pour Openda. Openda, il a pas joué toute la saison dernière. C'est normal que certains joueurs vont avoir des creux. C'est le cas pour Tolisso et c'est le cas pour plein de joueurs sur une saison régulière. C'est tout.
Parlons du Havre.
Il faut être juste patient avec cette équipe, parce que je suis convaincu
Walid, qu'avec un peu d'automatisme et du temps, ça va fonctionner.
J'espère.
Le Havre qui a donc obtenu le match nul un partout à Lyon. On va écouter Didier Digard tout de suite, l'entraîneur des Havrais, après cette belle performance normande au Groupama Stadium.
Oui, l'idée de Kaito, c'est parce qu'on sait qu'il a une très grosse activité. Et ce qui nous avait un petit peu manqué la semaine passée, justement, c'est ses courses dans la profondeur pour étirer les lignes. Lui, Kaito, le fait très bien. Il a la capacité à répéter et à bien fatiguer la défense pour que les autres puissent prendre le relais. Et Djibril, c'est Djibril. C'est la belle histoire de l'été, on va dire. Il a eu de la chance que je dorme pas énormément et que je me rende sur un synthétique un samedi matin. Après, il doit tout à son travail et son sérieux. C'est un petit avec vraiment un très très gros potentiel. Et on l'a vu aujourd'hui, il y a de la personnalité. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, le plus dur commence.
Djibril Ouziad, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le hack et sur le Didier Digard, non, Walid?
De toute façon, vraiment, moi, je le répète, mais Didier Digard est un entraîneur sous-côté de notre Ligue 1. Ce qu'il fait, ce qu'il réalise avec les moyens du Havre depuis qu'il est arrivé sur ce banc, c'est fantastique. Tu viens de parler du petit Djibril Ouziad qui est lancé dans un contexte pas simple. Il a confiance en ses jeunes. Il est capable d'être dans l'opérationnel très rapidement, de s'adapter à des gros 11 en face. On se rappelle de Marseille l'année dernière, s'il n'y a pas le rouge. On se rappelle de l'Olympique Lyonnais encore une fois ce soir. Même Monaco la semaine dernière, ils sont beaucoup plus proches du 1 partout que du 2-0. Voilà, c'est un entraîneur aujourd'hui qui est confirmé, qui est de plus en plus fort dans ses convictions, parce que il a connu une première saison très compliquée où il a réussi à se maintenir avec cette Panenka d'Abdoulaye Touré, mais depuis c'est un entraîneur très important dans le bas de tableau et qui arrive à optimiser un club qui travaille très très bien avec Dembaba, parce que ce soir encore une fois on a revu quelques joueurs qui peuvent être très intéressants cette saison dans notre Ligue 1 avec des coûts très très bas. Et ça, c'est important de le dire.
Et il arrive aussi à optimiser la qualité de ses joueurs. Et ça, je trouve c'est très intelligent de la part de Digard. Il a fait ce choix justement de reculer Seco, qui avait été performant l'année dernière au milieu de terrain, là, pour le faire jouer arrière central.
Au passage, on parle de Lens qui cherche un défenseur. Moi, si j'étais à la place de Lens et de Jean-Louis Leca, j'irais chercher Seco.
Ouais, après au niveau de la taille, c'est peut-être un peu compliqué pour et puis même du niveau
les Plafond duels, Vert, mais duel très très solide et intelligent de jeu.
Il est rapide ou pas?
Oui, vous
parce qu'on en parlait après, faut être
oui,
rapide de côté
central. Mais je pense que ça peut être une belle trouvaille.
Je pense qu'avec l'utilisation du ballon, en effet, il est intéressant d'un point de vue défensif, il a quelques lacunes, mais en tout cas dans ce système à 3, il est très intéressant, et surtout il lead sa défense, ça c'est très important, et on parlait de Seco, mais il y a pas mal de joueurs, on parle de Mwanga, on a vu ce que ça a donné du côté de Nantes.
Quand il a envie, Mwanga, c'est un vrai.
Et tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je trouve que. Alors, est-ce que Digard a
même les deux japonais, Mizuta et Nakamura, ils ont été, j'ai trouvé très bons.
Ouais, Mizuta, Seco, tout ça, c'est costaud. La filière japonaise est pas mal côté Havre. Mais je pense que Digard a cette légitimité d'être un jeune coach et qu'il arrive justement à faire passer son message aux joueurs, tu vois. Et quand je parle de Mwanga, et c'est la même chose avec Richardson, il a fait deux superbes matchs. Il a été très bon la semaine dernière contre Monaco. Il est encore très bon aujourd'hui. On a parlé d'Ouziad, Rasoul Ndiaye qui est top. On lui a donné le brassard avec le départ de Sangante aujourd'hui.
Il est très sous-côté.
Et aujourd'hui, il a encore fait un très très bon match. Il a mis Tagliafico dans sa poche 2-3 fois. Et puis Samata qui joue dans son style de jeu. Moi, je le connaissais du côté de Genk où c'était très compliqué. Et là, avec un Digard, bah voilà, il exploite un maximum ses qualités.
C'est un joueur
qui a capacité de pouvoir garder le ballon justement quand le Havre est pressé, et surtout qui arrive aussi à prendre la profondeur. Donc chapeau à Didier Digard. J'aime beaucoup sa communication. J'aime beaucoup la manière dont il travaille. Et honnêtement, ça serait très très bien pour lui et pour le Havre que le Havre arrive à chercher, je sais pas, une dixième, une 11e place, ça serait, je trouve que ça récompenserait un petit peu le travail de tout ce club et notamment de Didier Digard.
Bah, il leur manque un peu la fin de match là, qui est pour aller chercher ce gros coup.
Ils étaient tout près.
Ouais,
ils sont toujours tout proches, hein,
ouais,
souvent.
Ouais, pour changer de dimension.
Un partout entre Lyon et Le Havre, la victoire de 3 à Lorient 2-1, le match nul 2 partout entre Brest et Toulouse, la victoire d'Angers à Auxerre 3-1. On en parle dans quelques instants. L'after est là jusqu'à minuit, mais dans un instant, on va surtout revenir sur la défaite du Racing Club de Lens à Strasbourg 2-1. On est avec Walid Acharchour, avec Maxime Chanou. On est sur RMC, c'est l'after jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Jérôme Sillon.
Jusqu'à minuit, l'after avec Walid Acherchour, avec Maxime Chanou, avec vous au 32-16 et sur le WhatsApp de l'after. Cet après-midi, donc, le Racing Club de Lens a été battu 2-1 à Strasbourg. On va parler de la performance alsacienne dans un instant. Mais d'abord, je voulais revenir sur cette défaite lensoise et je voulais vous faire écouter Robin Risser, le gardien du Racing Club de Lens, qui parle du style de jeu de Dino Topmöller, parce que c'est vrai qu'on a vu tous les espaces qui pouvaient être exploités dans le dos de la défense lensoise cet après-midi. Écoutez ce qu'en pense le gardien international Robin Risser.
C'est peut-être la nouvelle façon de travailler du club. On sait que en Allemagne, souvent du attaque-défense, c'est un peu ce qui est mis en place. Nous, on adhère à cette philosophie-là. On n'a pas peur d'être sur un fil. Ce soir, c'est contre nous, mais il y a d'autres matchs comme la semaine dernière où ça a tourné en notre faveur. Donc, il faut retenir le positif. On arrive à se créer des situations. Je pense que si on marque le deuxième but avant la mi-temps, il y a 2-0. Je suis pas sûr que c'est le même match derrière et je suis pas sûr qu'on aurait la même discussion à l'heure où on se parle.
Max, qu'est-ce qui pose problème dans la défense de Lens? Nous, ce qui nous a choqué quand on a regardé le match avec Walid, c'est notamment l'espace à gauche entre Mathieu Hudol et son central gauche. Alors ça a été Sagnan à un moment, ça pouvait être Navroki aussi.
Mais finalement, c'est le bloc équipe et Robin Risser l'a très justement décrit. En fait, il faut comprendre quel est l'ADN footballistique de Dino Topmöller. C'est un entraîneur qui a quand même une ADN et une DA très germanophone. Où est-ce qu'il décide en règle générale de faire jouer vraiment son équipe vers l'avant, et donc ça crée des distensions. Et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu le but qui a été encaissé, le premier but notamment, où Mathieu Hudol est très haut sur le terrain, et ben derrière, les Strasbourgeois ont bien lu ça. Tu sens bien que ça a été travaillé.
Max, je t'interromps, on a un invité dans l'after, on reparlera de Lens dans un instant, mais d'abord le buteur de l'Estac après la très belle performance troyenne aujourd'hui, c'est Renaud Ripard qui est dans l'after. Bonsoir Renaud.
Bonsoir à tous,
merci Renaud d'être avec nous, bravo pour cette victoire à Lorient, première victoire promue, donc 3 cette saison en Ligue 1, déjà 4 points en 2 matchs. Déjà sur cette rencontre ce soir, parlez-nous un petit peu de cette belle performance troyenne.
Bah, je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps où on a su être très réaliste, très clinique pour piquer deux fois en contre, enfin une fois sur coup de parité, une fois en contre, et puis après bah c'est vrai qu'on a beaucoup souffert, on leur a laissé le ballon, on a concédé pas mal d'occasions, mais voilà, on sait que de toute façon cette année on va être amené à souffrir, et collectivement on a été solide, et donc on est très heureux de rentrer avec cette victoire.
Salut Renaud, Max Chadeau, félicitations déjà pour la montée, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous en parler plus tôt, évidemment pour vos premiers points et notamment cette victoire ce soir. J'ai mis en avant justement l'inexpérience de cette équipe troyenne, et c'est pas du tout le cas pour toi, pour Adrien Monfray par exemple, qui avait énormément d'expérience dans le football professionnel. Voilà, quel est ton apport toi, quel est ton rôle dans ce vestiaire justement face à cette inexpérience de tes coéquipiers?
Bah, disons que c'est vrai qu'avec Adri, on est peut-être les deux joueurs qui ont le plus d'expérience dans le groupe. Et donc on essaye un peu d'encadrer toute la jeunesse qu'on a dans ce groupe-là. Mais en même temps, je pense que de notre côté, c'est aussi un atout. On a voilà, beaucoup de joueurs qui ont plein de fougue, plein de talent dans les pieds, et qui ça demande qu'à être montré sur le terrain. Donc, c'est clair que par rapport à ça, bah nous voilà, on essaie de donner un peu les conseils, de gérer les tempos un petit peu dans le match, mais après il faut aussi qu'ils s'expriment tous leurs talents qu'ils ont, et là-dessus ils le font très bien.
Qui s'expriment et qui t'écoutent. Est-ce que tu sens justement, on parle souvent de la nouvelle génération qui ont tendance à être un petit peu individualiste, voilà, j'ai pas envie de tomber dans une image qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs. Est-ce que tu sens vraiment que les joueurs ils sont attentifs à vos messages, cette nouvelle génération justement?
Bah, je sais pas comment ça se passe dans les autres clubs, mais nous en tout cas ça se passe très bien. Ils sont à l'écoute, ils sont même demandeurs pour certains. Il y en a voilà qui viennent nous demander un peu. Enfin moi je sais que personnellement ils viennent nous demander c'était comment la Ligue 1, quand on joue là et tout ça. Donc, nous on a des super jeunes avec un super état d'esprit, et c'est ce qui va faire notre force cette année, je pense.
Renaud Ripard dans l'after. Renaud, ça faisait 3 ans et demi que tu n'avais pas marqué en Ligue 1, évidemment, puisque 3 étaient en Ligue 2, et puis tu as eu cette blessure aussi, cette rupture du tendon d'Achille. Bon, ça fait quoi de remarquer en Ligue 1?
Bah, c'est toujours une super sensation, hein. C'est toujours une super sensation. Après, je crois que j'avais joué que 2 matchs, hein, entre les deux, donc ça va. C'est pas non plus une disette trop longue, mais c'est toujours une super sensation de marquer, peu importe le championnat. Et donc là, c'est vrai que je redécouvre la Ligue 1 après 3 ans en Ligue 2, avec beaucoup d'envie, beaucoup de joie aussi, et on va essayer de faire la meilleure saison possible.
Tiens, juste un dernier mot, Renaud, sur ton penalty. Ouais. Toi, t'es pas pas du, c'est pas la Neymar, il y a pas de, il y a pas de petite course d'élan, j'attends le dernier moment, toi c'est à fond tout de suite, on y va quoi.
On va pas trop, on va pas donner trop d'infos aux autres gardiens, mais non non, après Neymar il les tire très très bien comme il fait lui, chacun sa manière de tirer, moi j'essaie de bien me concentrer, de faire c'est un geste technique, donc voilà, de mettre un petit peu la pression et de réaliser le meilleur geste technique possible, et puis après voilà, ce soir ça m'a souri, c'est dedans, donc on est tous très contents.
Merci beaucoup Renori par l'avant-centre de l'Estac d'avoir été dans l'after ce soir. Victoire 2-1 donc. Bon, 2-3 sur la pelouse de Lorient. Très joli coup pour les Troyens. On parlait de la défense du Racing Club de Lens. Max, je t'ai coupé.
Ouais, la défense et plus généralement, le bloc équipe lensois, en fait. Il faut arriver à comprendre quelle est la DA un petit peu de cette nouvelle entraîneur, Dino Topmöller, qui, comme je l'avais dit un peu plus tôt, qui a une mentalité germanophone avec une mentalité à toujours aller vers l'avant. Et donc, fatalement, ça crée des distensions dans le bloc, et on l'a vu, et c'est la raison pour laquelle je te disais un peu plus tôt que Strasbourg avait étudié ça, parce qu'ils ont bien utilisé l'espace dans le dos que laissait Udol, notamment lors de ses montées en phase offensive. Et donc, en fait, elle est là, la problématique. Et c'est là que moi, je me pose la question sur l'apport de Cuisance et de Titraoui. Titraoui, qui est un très bon joueur que j'ai suivi du côté de Charleroi, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont le coffre qu'avait un Sangaré ou un Thomasson pour pouvoir justement couvrir un petit peu, les espaces laissés dans le dos, que ce soit Udol du côté gauche, Coras à droite, ou Abdoulhamid, ça dépend qui joue. Et donc je pense que là il faut sincèrement que les Lensois prennent en conscience, en tout cas, que Pierre Sage n'est pas Dino Topmöller, et donc ils doivent absolument s'adapter au nouveau jeu. Mais ça va prendre du temps, c'est une question d'adaptation. Malheureusement pour eux, c'est presque une bonne chose, ils vont avoir la Champions League. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est est-ce qu'ils vont avoir le temps de travailler, alors que tu serais bien que lorsque tu vas rentrer dans des semaines à 3 matchs, eh ben le plus important c'est le résultat, c'est le prochain match, donc il y aura pas forcément les automatismes créés instantanément. Moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est cette défense en règle générale. Je l'avais dit la semaine dernière, je me suis fait tombé dessus quand j'avais dit que le Racing Club de Lens, si il veut être performance en Champions League et en Ligue 1, il va falloir recruter dans ce domaine-là. Et c'est vrai que tu l'as vu aujourd'hui. Tu l'as vu qu'aujourd'hui, quand Noiroki y sort, que tu fais rentrer Aguilar, c'est pas un arrière central. C'est à la base un piston droit, voire un arrière droit. Il se retrouve à jouer défenseur central. D'ailleurs, le deuxième but vient un petit peu de sa faute parce qu'il fait une paire de balles un petit peu préjudiciale pour Racing Club de Lens, qui permet d'ailleurs à Strasbourg de marquer ce deuxième but. Donc voilà, j'ai un point d'interrogation sur la profondeur de banc, notamment dans cet aspect défensif. Il reste quoi, 4-5 jours pour le Racing Club de Lens d'aller chercher un défenseur qui permettrait, encore une fois, de venir un petit peu accompagner Gagnou, parce que si tu compares, je terminerai avec ça, la défense centrale l'année dernière où tu avais Beidou, tu avais Malangsar, tu avais un Gradit, finalement un Gagnou, enfin c'était solide là aujourd'hui. Gagnou
pas là parce qu'il était blessé, mais
en tout cas il a commencé la saison titulaire, c'est Gagnou qui l'a remplacé. Gagnou qui est un très bon joueur, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, mais il peut pas faire tout seul.
Non mais la perte d'un Malangsar derrière, elle fait très très mal, même sur l'aspect athlétique et gagner des duels. Il y a un moment en Ligue 1, tu gagnes pas tes duels, tu peux pas gagner des matchs. Et c'est vrai que moi sur la première mi-temps, t'es dans la machine à laver quand même, hein. Sur les 20 premières minutes, bon, tu te reprends bien grâce à Odio, Tovin, Sima que j'ai encore trouvé très bon sur la
très,
première
très
mi-temps.
Bon. Ah, ouais.
Moi je l'ai dit la semaine dernière, c'est mon chouchou en Ligue 1 en ce moment. Il me fait beaucoup penser à Balogun et il aura fait beaucoup de bien. C'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui se provoque une situation tout seul comme un TGV, parce que le petit Mitchell là qui vient d'arriver de Storm Grâce, là, il a découvert la Ligue 1 avec Sima aujourd'hui. Même Tovin qui a été vraiment bien sur la première mi-temps. Risser aussi qui retarde l'échéance parce qu'il fait 2-3 arrêts de très très grande classe. Mais sinon, moi je suis d'accord avec Maxime. Derrière, il faut un mec. Parce que c'est trop léger, malheureusement le petit Sagnan c'est léger aujourd'hui, même s'il faudra attendre, hein. Ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur parce qu'il est très très jeune, mais même au milieu de terrain, moi je pense que c'est pas complémentaire Titraoui et Cuisance.
Ouais, ah ouais.
Moi je pense que Bulatovic ou Aïdara,
je suis d'accord avec toi,
vont devoir
très surpris que Aïdara joue pas plus. Moi je pensais qu'il s'était remis sur pied les 6 derniers mois et qu'il allait prendre la suite de Sangaré et Aïdara.
Il y a un changement de rythme en fait, les deux.
Ouais.
Je trouve qu'ils sont sur la même tonalité, alors c'est des bons joueurs, des beaux joueurs. Titraoui, moi je trouve que voilà, il fait du bon boulot, notamment pour essayer de colmater le Brest, même s'il a eu beaucoup de déchets, moi je trouve, ce soir. Cuisance a aussi de l'activité, mais c'est pas la même chose que Thomasson Sangaré où t'en avais un des deux qui faisait l'escalier pour mettre le surnombre sur l'attaque en étant vraiment un lien, et même défensivement là je le retrouve pas. Après pour le coup, moi j'ai demandé un peu moins de temps pour Lyon parce qu'ils avaient des échéances importantes. Pour Lens ça va arriver avec la Ligue des Champions, mais avec le départ de Pierre Sage qui pour moi n'était pas prévu à la base, et l'arrivée de Topmöller, ça demande de la patience. Moi je vais quand même être patient, il va falloir voir aussi qui va arriver derrière. Et puis pour l'instant, voilà, ils sont à 3 sur 6, ils sont déplacés à Strasbourg, ils ont pas. Moi, c'est pas la défaite en fait qui me dérange le plus, c'est surtout la manière et la structure. Moi, parce que même la semaine dernière contre Auxerre,
ils ont pris des buts
et ils ont pris des vagues. Mais après, il va falloir que ça se mette en place, et on va faire confiance à Top Moller et à Jean-Louis Leca pour essayer d'apporter une touche ou deux sur la fin de match.
Lens qui démarra sa saison de Ligue des Champions le jeudi 10 septembre, ce sera à Prague sur la pelouse du Slavia.
Et j'ai juste un doute aussi, très rapidement, moi Ivanovic.
Ah ouais,
l'utilisation d'Ivanovic. Ouais. Moi, de ce que j'avais vu à l'Union Saint-Gilloise au début à Benfica, c'était plutôt un joueur d'axe 9 ou deuxième numéro 9. Là, faux ailier, joueur d'interligne là-haut là. Moi, je trouve qu'il est très très lourd sur le 1 contre 1. Il gagne pas de duel avec le ballon. Je le trouve vraiment. Alors, il a marqué un but la semaine dernière contre Auxerre, mais même dans son match contre Auxerre, je l'ai pas trouvé fringant. Attention, parce que sur l'utilisation, je pense que c'est un super joueur, hein, mais dans l'utilisation. Est-ce que il faudra pas peut-être pas restructurer l'attaque à 3 avec après, un 10 de 9
après avec
il faudra faire quelque chose
avec le début de saison de Sima qui est incroyable, avec la blessure d'Hudson Edouard qui va revenir et qui risque de retrouver une place.
C'est surtout il a eu un gros problème familial
qui risque de revenir et en tout cas qui va reprendre sa place de titulaire. C'est vrai qu'Ivanovic à l'Union Saint-Gilloise était un peu plus axial et il était très intéressant dans ce rôle là.
Maintenant
aujourd'hui avec un Udol qui en règle générale est très haut, en fait Ivanovic commence, en fait c'est un peu un système hybride, il commence à gauche, il est très souvent dans l'axe, mais c'est vrai qu'il est souvent dans les interlignes, il est toujours un cran un peu plus bas et même dans l'utilisation du ballon, il a tendance à venir décrocher un peu trop.
Udol que j'ai trouvé en grande difficulté, sur le côté de Jesse Miasin, il lui a laissé beaucoup d'espace, trop d'espace.
Parce que Udol, il devait tout faire, il était au four et au moulin, parce que je pense que le petit Sagnan aussi est encore un petit peu léger, même s'il est intéressant parce que c'est un gaucher, dans les ressorties de balle, bon il a pas mal de déchets, mais en tout cas il peut trouver des angles de passe qui est un peu différent que lorsque tu mets un droitier à gauche. Mais ouais, c'est intéressant le point que tu as soulevé par rapport à Cuisance et Titraoui. Et notamment dans le changement de rythme. C'est vrai qu'on sent un Cuisance un petit peu lourd et qui a tendance quand même à toujours jouer sur le même rythme. Après, voilà, ils ont fait le choix d'aller chercher un Top Moller qui est quasiment dans la même façon de jouer de Pierre Sage. Je te parle d'un point de vue structurel, c'est-à-dire avec cette défense à 5, avec ces deux pistons. Je pense que ça va leur permettre de gagner du temps. Je te le dis, moi, la seule interrogation que j'ai, c'est sur la profondeur de banc, parce que n'oublions pas que Lens a fait une grande saison, parce qu'ils avaient qu'un match par semaine la semaine dernière. Là, tu vas rajouter la Champions League. On connaît le niveau, on connaît aussi mentalement, ça demande énormément. Physiquement, j'ai un peu peur qu'avec cet effectif actuel, Lens risque d'être un petit peu à la peine en Ligue 1.
On verra si Bichabou, notamment, qui est cité, signe au Racing Club de Lens. Avant de parler de Strasbourg, d'accueillir Laurent, petite devinette. Florian Thauvin a marqué son 100e but en Ligue 1 ce soir. Il cumule également plus de 50 passes décisives en Ligue 1 depuis la saison 2006-2007, qui sont les deux autres joueurs qui cumulent plus de 100 buts et plus de 50 passes décisives en Ligue 1.
Payet ?
Payet est là, 102 buts, 114 passes décisives. Et le deuxième ?
Wow. Mbappé,
bravo. Ouais. Kylian Mbappé, 191 buts, 65 passes décisives.
Au passage, j'en profite parce qu'il y a défaite, mais j'ai adoré le match de Florent Thauvin.
Alors justement, quelle trace a 100 buts en Ligue 1 ?
Oui, ça, c'est un débat plus global. Pour moi, Thauvin est une image de notre Ligue 1. Ouais. Et moi, depuis que je suis la Ligue 1, bien évidemment que Thauvin, c'est la Ligue 1, c'est Thauvin, c'est la Ligue 1. Bien évidemment, dans le ranking, il y a beaucoup de joueurs devant lui, mais ce qu'il a fait à Marseille et ce qu'il est en train de faire à Lens, où il donne un titre avec cette Coupe de France, une deuxième place, un retour à la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, il y a un espère remontada et leadership dans sa carrière qui est
assez dingue. Julien Lachuard, l'entraîneur de Brest, est en direct dans l'After avec nous. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Julien, match nul décroché in extremis par votre équipe, mais match nul mérité.
Oui, bonsoir à tous. Ouais, comme vous le dites. Mérité parce qu'on a déployé une grosse énergie ce soir. On avait vraiment l'envie de mettre cette équipe de Toulouse sur le reculoir. On sait leur jeu, on sait leur dynamique au milieu de terrain avec leur carré. On sait aussi que c'était une équipe difficile à bouger parce qu'ils ont des défenseurs de bon niveau avec un gardien. Donc il fallait vraiment les bousculer et on a arrêté vraiment. Alors déjà qu'on est déçu d'avoir fait ce match nul arraché dans les dernières minutes, mais vu l'énergie déployée, on a arrêté vraiment frustré. de ne pas repartir avec ce point. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous a poussé de là où il est pour voilà, égaliser. Mais c'est vraiment un moindre mal. Et je pense qu'on peut être fier aujourd'hui des garçons et de l'énergie déployée.
Julien Lachuère dans l'after, une question de Maxime Chano.
Bonsoir coach. Défense centrale New Look pour vous ce soir entre Gauthier Loris et Le Guen. Qu'est-ce que vous avez trouvé de cette association de vos deux joueurs?
Bon, on sait que les charnières, c'est souvent avec le temps qu'on les juge. Moi, j'étais content alors de Raph Le Guen, parce qu'il dégage une assurance avec son jeune âge. Et puis l'arrivée de Gauthier, on sait ce qu'il sait faire. Il a prouvé par le passé, son niveau, la connaissance de la Ligue 1. Il va certainement faire du bien aussi aux jeunes qui est à côté de lui, mais voilà, ça va aller en s'améliorant, même si je n'ai pas grand-chose à leur reprocher, ça a été sobre, efficace, même si on prend encore deux buts ce soir, mais j'ai bon espoir qu'on arrive un petit peu à éteindre ce robinet, et puis faire un clean sheet sur les prochains matchs.
Julien Lachuire, l'entraîneur du Stade Brestois, est dans l'after sur RMC, une question de Walid Acherchour.
Coach, bonsoir. Sur la fin de Mercato, on peut s'attendre à quoi du côté de Brest? Ça va encore bouger niveau arrivée, niveau départ?
Ouais, le Mercato, voilà, c'est la hantise un petit peu des entraîneurs, parce qu'on sait vraiment jamais ce qu'on va avoir à la fin. Déjà, je l'ai dit, hein, le Mercato, c'est de garder nos meilleurs joueurs, nos forces vives, pour atteindre les objectifs.
À Jorque, par exemple?
Ça, c'est la première des... Ouais, mais je pense que les dirigeants sont au fait de ça. Alors, on connaît le règlement du mercato. Il termine mardi à 20h ou 19h59. On sait ce qu'on doit faire. Voilà, on connaît les règles. On espère garder nos meilleurs joueurs et puis peut-être amener un joueur un peu plus offensif si on n'a pas de départ.
Okay.
Et puis essayer de s'il y a des joueurs qui sont pas dans le groupe ou qui sont pas forcément heureux à Brest, essayer de trouver une solution avec eux intelligente et puis essayer de les remplacer par des garçons qui veulent nous rejoindre pour notre objectif. C'est d'ailleurs notre ambition dans ce mercato, c'est d'avoir des joueurs heureux, d'être à Brest et de porter les couleurs du Stade Brestois.
Ça va encore être compliqué d'aller jouer à Brest cette saison en Ligue 1, coach?
Ouais, c'est le but, mais pas qu'à Brest, hein. On veut aussi à l'extérieur montrer notre ADN.
Okay.
Aujourd'hui, on n'avait pas nos supporters, mais je pense qu'ils peuvent être fiers s'ils ont vu l'énergie déployée pour arracher ce point du nul déjà. Mais quand je vois cette énergie, j'ai pas de souci pour se dire qu'on va faire une grosse saison. Et puis notre objectif à chaque fois, c'est quand les adversaires repartent de le blé, ils se disent, oh là là, c'est dur de venir jouer à Brest. Mais en tout cas, c'est notre objectif, en tout cas, qu'on a ensemble cette saison, au-delà des résultats.
Julien, on a vu la banderole des Indians Tolosa pour Eric Roy. Vous avez parlé vous-même de ce supplément d'âme peut-être apporté par Eric. On a tous beaucoup pensé à lui ces derniers temps et ce soir aussi. C'est forcément une présence aussi pour vous et vous y pensez souvent à Eric, j'imagine.
Ouais, on peut pas ne pas y penser déjà par rapport à tout ce qu'il a apporté au club, aux résultats extraordinaires, je dis historiques même, par rapport à cette Ligue des Champions. Et puis surtout, on peut pas s'empêcher de penser à lui parce que c'était un homme extraordinaire. Il se plaignait jamais, il donnait toujours tout. Et c'est ce que j'ai dit aux garçons en préambule de ce match. Quand on est à Brest, il faut tout donner. Et Eric a toujours tout donné, sans se plaindre. Et l'équipe a été à son image ce soir. Et je pense qu'il peut être fier d'où il est.
Et on pense évidemment fort à lui. Merci beaucoup. Merci Julien Lachuire et bravo donc pour ce match nul de partout, deux matchs nuls de partout donc pour débuter la saison pour le Stade Brestois. Merci à Xavier Grimaud également pour la mise en relation dans l'after ce soir donc de l'entraîneur du Stade Brestois de partout face à Toulouse. La victoire de 3 à Lorient 2 buts 1, le match nul entre Lyon et Le Havre 1 partout, la victoire d'Angers à Auxerre 3 buts 1. On parlait de la défaite de Lens à Strasbourg. On termine juste sur Thauvin, Walid, et ensuite on fait une petite pause.
Non, oui, pour parler de son son match, parce qu'il y a des, il y a des matchs où il est décisif, où il marque, où il fait marquer, et où techniquement je le trouve pas, où je le trouvais pas au niveau de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et pourtant aujourd'hui il marque sur penalty, mais dans le jeu je l'ai trouvé rayonnant, vraiment dans cette volonté d'être connecté à son, à son piston, à l'attaquant. Il a, il a respiré le QI foot, et vraiment c'est lui qui, dans la machine à laver qui était Lens contre, contre Strasbourg aujourd'hui, qui a donné un peu d'oxygène au jeu lensois, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a, ce qu'il a fait. Et je trouve même qu'il dégage aujourd'hui un respect de l'adversaire, une aura, une espèce, quand il a le ballon,
un peu plus
même,
d'humilité,
ouais, hein,
je trouve même qu'il il fait preuve d'un peu plus d'humilité.
Non, aussi. Non, mais je dis juste que moi, surtout l'adversaire, mmh, l'adversaire, ouais, quand il a le ballon, le bah respecte, oui, tu sais, le respecte bah trop, et par rapport à ce qu'il est.
Il l'a gagné. Non,
mais il en joue très, il en joue, ouais, très, très bien. Ouais. Il y a une espèce de, d'aura, ouais, comme, comme les grands joueurs de Ligue 1, oui, comme les grands joueurs de notre championnat.
Parce qu'il a fait une très belle saison, ouais, l'année, ouais, dernière. Moi, j'avais le sentiment, en fait, je sais pas si Thauvin n'avait pas juste besoin d'être dans un club familial. Alors, certains te diront qu'il a brillé du côté de l'Olympique de Marseille, dans un club qui est tout sauf être familial. Mais je sais pas, moi, j'avais le sentiment, il rejette.
Familial, ça veut tout rien dire.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ouais, je pense qu'il a besoin d'être la star, ah, il a besoin d'être entouré, il a besoin d'avoir énormément d'affection, ouais, peut-être un public aussi qui est proche de lui. Je sais pas, moi, à chaque fois que je voyais Thauvin à l'époque, j'avais le sentiment de voir un gamin qui était mal dans sa peau, même dans sa communication. Et depuis qu'il est arrivé au Racing Club de Lens, je sais pas, je le trouve bien, je le trouve heureux. Alors évidemment, il a fait une saison exceptionnelle. Il a mené au Racing Club de Lens à cette saison incroyable avec cette seconde place et cette victoire en Coupe de, en Coupe de France et d'ailleurs au Trophée des Champions. Donc bravo à lui. Mais c'est vrai que non, j'ai le sentiment qu'en effet, c'est un nouveau Thauvin après quand même des expériences compliquées, notamment au Tigresse, où est-ce que sa sortie avait été très moyenne quand il avait un peu critiqué Dédé Gignac en disant qu'il l'avait pas soutenu. Voilà, je trouve que même dans sa communication, on voit un Thauvin qui est beaucoup plus apaisé. Alors, est-ce que ça vient avec l'expérience? Est-ce que ça vient avec la confiance? Parce qu'en effet, il a fait une très belle saison l'année dernière. Mais encore ce soir, il a été intéressant malgré la défaite.
Cinq joueurs ont marqué plus de buts que lui depuis ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2012-2013. Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Alexandre Lacazette, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Ça parle, ça veut dire toute la place qu'est celle de Florian Thauvin désormais en Ligue 1. Dans un instant, on parle du Racing Club de Strasbourg, des autres résultats de la soirée, l'actu mercato également à venir. L'after est là jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Jérôme Sillon.
Avec Walid Acherchour, avec Maxime Chanoux, avec vous au 32-16 pour revenir sur cette deuxième journée de Ligue 1. La défaite de Lens, mais la victoire donc de Strasbourg 2-1. Laurent est avec nous, il était au stade de la Méno. Salut Laurent.
Salut, salut à tous.
Salut Laurent.
Laurent, merci d'avoir patienté. Bon, cette équipe de Strasbourg nous avait grandement inquiétés. On était au Vélodrome avec Walid il y a une semaine. Et bon, on a vu la différence. Et pourtant, il manque encore pas mal de joueurs, pas mal de recrues qui n'étaient pas titulaires. On sait que l'effectif va encore bouger. Mais on a retrouvé un Racing Club de Strasbourg enthousiasmant. T'es d'accord avec ça?
Franchement, très agréablement surpris de l'entame du match. Parce que honnêtement, en allant au stade, ça fait dire avec mes copains, on était très inquiets, mais vraiment très inquiets. Pour rien vous cacher, moi, pour moi, on repartait avec une lourde défaite de la Méno. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la semaine. Alors évidemment, l'apport de Ortega, je trouve qu'il a, il a montré des choses intéressantes.
Ortega, non, c'est pas Panicelli, non?
C'est son petit frère. Ortega, c'est le petit frère de Panicelli.
Ah d'accord, c'est pas Panicelli.
On posera la question quand Panicelli revient, hein, parce que ouais, les deux ensemble,
non,
ça va être
le problème, c'est que Ortega et Panicelli, t'avais dur de les faire jouer ensemble.
Ouais, bah oui.
Parce que les gars, c'est le même, quoi.
Ouais, ouais, parce que c'est vraiment le même profil. Hein.
Après, je trouvais Reynaud très intéressant. Nanasi aussi très percutant.
Très bien, ouais, dans les appels. Et,
ouais, franchement, je trouve que la première mi-temps, elle est vraiment hyper cohérente, hyper intéressante, très rassurante. Et le seul point noir de cette mi-temps, c'est finalement ce pénalty concédé, quoi. Alors, j'ai pas revu des images, mais apparemment, il semblerait être...
Ouais, c'est clair.
Il y a faute de Mitchell.
Il le touche bien.
Par contre, j'aurais pu avoir pénalty sur Nanasi.
Ouais, alors moi, je suis de l'autre côté du stade. Quand il y a la faute sur Nanasi, de très loin, on voit quand même un gros contact, mais on est très loin. Après,
elle est comment d'ailleurs, ouais, cette nouvelle Méno? Tu nous parles de là où tu es dans le stade, t'es dans quelle tribune? Elle est comment cette nouvelle Méno, Laurent?
Je suis dans le COP. Alors, il y a pas grand chose qui a changé depuis la saison dernière, parce que la nouvelle tribune, on l'avait déjà et tout. Mais ils sont repeints dans le COP, c'est tout propre, tout gris. Ça fait neuf, ça fait beau. Je pense qu'il y a toujours les trous dans la toiture, mais sinon, on va dire que ça sent le propre. Maintenant, on a redoublé quasiment tout notre effectif. Donc, l'effectif aussi, il est tout neuf, il est tout propre. Voilà, je pense que...
Mais vous allez perdre Guéladoué, Laurent. Hein, le Guéladoué qui devrait partir à Leverkusen.
Ouais, et puis je ne fais pas non plus beaucoup de quelques doutes sur le sort de Gouré qu'on voit pas dans l'équipe. Donc, à mon avis, il va peut-être aussi lui quitter.
En tout cas, vous avez récupéré encore une fois un très bon gardien. On parle de la multipropriété, mais
Qu'on en parle de Philippe Jorgensen.
Après Petrovic, après Mike Penders, honnêtement, Jorgensen.
Non, mais on parle d'un gardien qui était à Villarreal, qui a été acheté par Chelsea. C'est miraculeux pour Strasbourg d'avoir un gardien de cette dimension.
Qui était numéro 2 à Chelsea la dernière.
Et on parle du successeur de Kasper Schmeichel dans le but du Danemark.
Quand et à la relance, il est bon. Est sur le premier but. Hein, c'est lui qui fait
la longue
transversale sur Nanasi, qui impulse déjà le mouvement de un mouvement de grande qualité, hein, technique, intelligence de jeu. C'est vrai qu'il a fait un gros match. Voilà. C'est vrai que c'est paradoxal parce que Jorgensen fait partie des top 3 des joueurs sur la rencontre.
Mais faut qu'on parle de Yacine quand même, qui marque un doublé.
Exactement. Mais moi, pendant un long moment, je me suis dit Strasbourg est mal payé sur cette rencontre par rapport à ce qu'il produisait en termes d'intention. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'impression collective. Individuellement, on peut parler de Jesse Mbassine au passage, qui, on l'a vu l'année dernière quand il arrive de Dunkerque en janvier. Il apprivoise un peu la Ligue 1 parce que c'est un joueur frêle, c'est un joueur qui fait penser à Riyad Mahrez, moi, quand il a débuté. C'est-à-dire un joueur d'évitement, un joueur où la balle est collée.
Plus petit.
Oui, beaucoup plus petit, mais la balle, elle est collée et il est capable de faire des très belles choses en marquant, en centrant, en faisant marquer. Mais sur la première mi-temps, j'ai essayé de machine, je me dis, tu vois, un peu comme l'année dernière, physiquement, est-ce que ça va passer? Oui, il y a des belles choses, mais... ça manque d'action tranchante, ça manque de statistiques. Et deuxième mi-temps, le mec, il met doublé. Et même sur le but refusé d'Ortega sur un cheveu, c'est lui qui est au centre sur l'avant-dernière passe, qui fait le décalage sur Nanasi. Et c'est vrai qu'il a fait une deuxième mi-temps où il envoie sa carte de visite à la Ligue 1.
Et il met deux buts pied droit, alors qu'il est gaucher, non?
Il met deux buts pied droit. Il est même surpris de mettre le doublé. Et ça doit, on parlait d'Ethan Mbappé hier, fait partie de ces nouveaux joueurs, jeunes, qui doivent, prendre une dimension énorme en Ligue 1 et je pense que ce match-là va lui donner beaucoup beaucoup de confiance. C'est important d'avoir cette première image forte dans cette Ligue 1 pour se désinhiber complètement. Et moi je pense que dans cette équipe de Strasbourg, ça peut être un match déclic pour lui, comme il en a eu en Ligue 2. Il faut rappeler son histoire. Il vient des U19 de Marignane. Il arrive à la base. Il doit pas jouer tout de suite avec Dunkerque. Luis Castro le lance et derrière il fait une saison incroyable. Donc pourquoi pas le même storytelling pour le Marocain à Strasbourg.
Son premier but est incroyable. On parlait justement de la roulette et de la passe pied gauche d'Ethan Mbappé hier. C'était exactement la même chose. Il reçoit ce ballon. Normalement, il doit naturellement le contrôler pied droit. Il fait une roulette pied gauche pour l'orienter sur son pied droit. Il est exceptionnel dans l'exécution. Honnêtement, c'est du très très haut niveau. Moi, j'ai envie de parler surtout du quatuor offensif parce qu'en effet, Yacine a été très bon. J'avais envie de mettre en avant Jacobo Ortega. D'où il sort, je sais pas, je ne connaissais pas.
C'est Real Madrid B.
Exceptionnel, honnêtement, c'est un Panicelli 2.0. Je l'ai trouvé très intéressant, même dans son apport avec le ballon, où est-ce qu'il n'avait pas peur de venir décrocher. Honnêtement, son association avec Giovanni Reina, que je connais bien, parce que moi j'ai joué avec lui, je l'ai vu à ses débuts, parce qu'il a été formé à New York City Football Club avant de partir très tôt à Dortmund.
Je l'ai trouvé très bon,
qui est très très intelligent. C'est même très surprenant de le voir arriver à Strasbourg, mais j'ai trouvé son association avec Ortega intéressante. Il faut savoir que il va falloir aussi se poser des questions parce qu'en règle générale, Reina, la problématique qu'il a, c'est la régularité sur toute une saison. Oui. C'est un très bon joueur en sortie de banc. C'est vrai qu'à Nottingham Forest ou à Mönchengladbach, c'était un peu plus compliqué. C'est un joueur qui rarement joue une saison pleine. Donc j'attends de voir comment il va justement réagir.
Reina à 100%, on va dire les termes.
Bien sûr,
Reina, tu l'as vu
sur son arrivée. Tu l'as vu sur son arrivée à Dortmund, sa première saison qui est juste incroyable. Et même où est-ce que ça devenait un peu compliqué en équipe nationale, il a montré sur cette Coupe du Monde qu'il avait encore le niveau en effet du top Ligue 1. Et puis Nanasi qui a fait un très bon match, le premier but il est exceptionnel, c'est la première touche qu'il a sur le long dégagement de Jorgensen. Donc
lui aussi il fait partie de ces joueurs irréguliers. Est-ce que lui aussi cette saison, c'est la problématique de
Strasbourg quand tu fais le bilan après le match de l'Olympique de Marseille? Alors certes il y avait beaucoup d'absences, c'était pas du tout le même 11 titulaire, mais c'est toujours un peu difficile avec Strasbourg de prévoir et de prédire ce qui va se passer.
Il va falloir attendre la fin du mercato, et ça va encore tellement bouger.
La culture de l'instant me fait dire qu'aujourd'hui maintenant Strasbourg ils ont fait un match incroyable et j'ai envie de les compter parmi peut-être les outsiders. Non, tu sais, une équipe qui va finir entre la 5e et la 6e place, mais t'es jamais à l'abri que ça éclate.
4-5 matchs comme ça de ce
niveau. C'est toujours le problème avec la jeunesse et l'inexpérience de Strasbourg.
Et puis il y a des joueurs qui vont progresser, des joueurs qui vont prendre une nouvelle dimension. J'aime beaucoup aussi Aneyo, que je trouvais frêle l'année dernière.
J'ai une grosse réserve sur Aneyo.
Moi j'ai trouvé que son entrée a été très bonne et je pense que lui aussi, comme Jesse Mbassine, va prendre beaucoup plus d'assurance par rapport à l'année dernière, même si l'année dernière j'avais les mêmes doutes que toi. Mais je pense que la deuxième saison va être meilleure.
Petit Diop par contre sympa milieu de terrain.
Petit Diop de Toulouse que déjà
même
c'est,
tout ça,
c'est lui qui avait fait le signe Joule après la séance de tir au but quand il était embrouillé avec Balerdi et qui avait fait un gros match en match de Coupe de France au Vélodrome. Il a fait une super saison l'année dernière avec Caceres au milieu de terrain. Et puis il y a le petit qui a été acheté 20 millions d'euros.
Koulibaly qui vient d'arriver du Werder Bremen, ouais, qui va sans doute jouer beaucoup plus
et qui lui aussi va je pense émerger dans cette équipe. Donc à voir.
Laurent, merci d'être venu au centre de 16.
C'est important pour le coach aussi hein, parce qu'avec la pression qu'il avait fait et le 4-0 qu'ils ont pris la semaine dernière, il fallait quand même rassurer tout le monde.
Avant le mercato, on dit un mot quand même de l'équipe qui a créé la plus grosse sensation du soir, hormis le Havre qui prend donc un point à Lyon. Angers gagne à Auxerre 3-1 quand même.
Ouais, franchement bravo Angers avec une fois des joueurs qui se relancent là-bas. Moi j'aime beaucoup El Ouazani qui était à Guingamp, qui est reparti à Braga et qui revient à Angers.
Très belle image hein, d'ailleurs, il vient célébrer je pense avec son papa ou quelque chose comme
avec
ça,
son papa, mais c'est un joueur qui à Guingamp déjà était un vrai bon joueur. Il a été champion U23 avec le Maroc. Le but de Van den Boomen incroyable. On a vu un vrai match de Bundesliga. On a vu un match de Bundesliga ping pong,
c'était très ouvert,
un vrai match de boxe. Les deux équipes sont rendues coup pour coup, sauf que Angers a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus en maîtrise de ce jeu-là. Auxerre a eu des occasions à un partout notamment, mais le 2-1, le troisième but, le fameux troisième but de Roland Courbis, paix à son âme, a été très important ce soir. Et bravo Angers. Moi encore une fois, je suis fasciné par ce club, ce qu'ils arrivent à faire. On parlait de Le Havre tout à l'heure, faut pas parler que du Havre. Angers, c'est incroyable. C'est
avec des moyens limités.
Comment ils ont fait Van den Boomen, comment ils font ces mecs, non mais comment ils arrivent à faire ces mecs-là, etc.
C'est un projet sportif. Ouais, intéressant,
Sbahi qui était après Grenoble, qui était complètement mort pour le football, ils le remettent dans le circuit. Non, franchement,
alors par contre, juste une petite aparté sur Auxerre. J'avais parlé d'Will Steele. Je pense que Will Steele sincèrement sera le premier coach à dégager cette année en Ligue 1 parce que ce que j'ai vu c'était très intéressant.
Après,
en effet,
c'est le choix de Ventier, donc Ventier vu qu'il a sorti Pélissier, je pense qu'il va quand même lui donner un peu de temps.
J'imagine Auxerre en danger cette saison en Ligue 1. Par contre, là où je te rejoins, c'est vrai qu'on a critiqué ces équipes-là pour parfois être un peu défensives. Là, que ce soit Auxerre ou Angers, on a quand même vu les équipes porter
derrière
l'avant.
Des grosses occasions.
On a vu un beau spectacle.
Il y a une occasion énorme.
C'est dans la structure. C'est dans la structure défensive auxerroise. Moi, vraiment, je pense qu'il va y avoir des carences et ça risque d'être compliqué pour Auxerre cette saison.
Avant de parler du mercato de l'OM, juste en bref, vous dire que Lens s'apprêterait à faire signer l'ailier franco-congolais Junior Kadil en provenance du Servette où il avait brillé lors de la dernière demi-saison. Guéladoué, on l'a dit, sur le départ vers le Bayer Leverkusen pour environ 40 millions d'euros. Crystal Palace discutera avec Lyon pour Robin Kluivert. On parle d'un transfert à 20 millions d'euros.
Ça, je comprends pas.
L'OL qui pourrait aussi laisser partir Chalet Tatsar à Sassuolo, qui serait même d'accord avec Sassuolo pour laisser partir, mais bon, ça c'était attendu.
Kluivert à Crystal Palace.
Crousasoul et l'ASM ont trouvé un accord pour 8 millions d'euros pour le milieu mexicain Eric Lira, mais il faut d'abord que Monaco se sépare d'un joueur extra-communautaire.
J'avais beaucoup aimé la Coupe du Monde, Eric Lira.
Et puis Leao donc quitte le Milan, il va signer à Galatasaray. Alvarez aurait dit non à Mikel Arteta. Julian Alvarez aurait dit non à Mikel Arteta. Et puis
surtout l'Atlético. Est-ce que l'Atlético a dit oui ou non déjà?
Non, parce que l'Atlético serait prêt à laisser partir, mais pas en Espagne.
D'accord, ok.
Et peut-être que Manchester City reviendrait dans la course.
Il a dit non à Arsenal.
Il aurait dit non à Arsenal d'après The Athletic.
J'ai vu qu'Osimhen va rester aussi à Galatasaray.
Le mercato. Je voulais qu'on écoute Bruno Genesio. Kylian, tu peux me dire si on l'a, le sonore de Bruno Genesio. On l'a. On va écouter Bruno Genesio en conférence de presse à la veille de Monaco-Marseille. Il a parlé du mercato marseillais. Écoutez-le.
On est dans une situation très périlleuse et très difficile parce qu'on doit à la fois équilibrer une situation financière mais aussi bâtir une équipe compétitive. Remplir les deux conditions, c'est pas facile, loin de là. Oui, je savais qu'il y avait des difficultés. À ce point-là, j'imaginais pas qu'au 29 août, on en soit à avoir zéro recrue et à vendre un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. Mais c'est comme ça. On doit s'adapter à beaucoup de choses sur le terrain, en dehors du terrain aussi maintenant que lorsqu'on est entraîneur. Voilà.
Paishao est blessé, il n'est pas dans le groupe de demain. Balerdi est donc à Rome pour signer en prêt payant avec une option d'achat qui serait obligatoire, mais on est en train de négocier entre l'OM et la Roma pour savoir combien de matchs doit disputer Balerdi.
Le deal, il est terrible quand même.
C'est-à-dire
si c'est 60% des matchs Balerdi, parce que Balerdi, faut rappeler, mais à la Roma, Ndika, il est indéboulonnable. Mancini, c'est le fils du coach. Hermoso, c'est un très bon joueur dans une défense à 3. Et ils ont mis 20 millions ou 18 millions sur un joueur de Wolfsburg, un grec, cet été. Donc Balerdi, si c'est 60% des minutes de l'AS Roma, il va falloir qu'il le fasse, qu'il se blesse pas, parce que sinon en fait les 14 millions et 15 millions tu les as pas quoi. C'est-à-dire que moi je répète ce que j'ai dit hier, mais on parle quand même d'un international argentin, Timber international hollandais, Pachao international brésilien, c'est pas on parle pas toujours de Ligue 2 quoi. C'est-à-dire avec toutes les limites que ces mecs ont,
tu veux dire que Marseille travaille mal pour les vendre?
Bah, il dégraisse, c'est compliqué.
Enfin, d'accord,
hein,
oui, c'est, ok, c'est la grande braderie, mais quand même, il y a un moment, on parle de joueurs qui ont je sais pas s'ils ont une cote. C'est exagéré de dire qu'ils ont une cote, parce qu'on connaît la situation de ces joueurs-là.
Une valeur marchande,
mais tu peux avoir, peux pas avoir une option d'achat obligatoire, en fait, comme tout le monde, sur ces types de joueurs-là.
Ils sont tellement en panique.
Non, mais c'est quoi, là? Le message qu'on nous envoie, c'est terrible. Et puis Balerdi, la fin, elle est tragique, quand même. Les sifflets contre l'Atlético de Madrid en prépa, mec veut se barrer de Marseille de cette manière. Non mais non, vraiment. Et pourtant Balerdi, moi je l'ai beaucoup défendu, hein, et il y a eu des hauts et des bas. La fin elle est quand même, et puis sur Genesio, pour rebondir sur le son qu'on a entendu, bon, on savait que ça allait être très compliqué, hein. Mais là, les déclarations de Greg Lorenzi et de Genesio là sur les 48 dernières heures ne poussent pas à l'optimisme, hein, sur la saison de.
Il y aura peut-être aucune recrue à l'OM cet été.
Moi, je veux pas. Il disait quoi Mbappé après un match du PSG? Arrêtez de cultiver la peur. C'est une expression comme ça. Je pense cultiver la peur. Mais si demain ça perd à Monaco et qu'il perd Pachao, Timber, Balerdi, il y a zéro mec. La semaine prochaine. On est sûr que Genesio.
Il a dit pas de démission, c'est pas pas de démission, c'est pas d'actualité.
C'est-à-dire qu'il va faire donc en fait Genesio, on lui avait dit que il allait faire l'Europa League et la Ligue des Champions avec Mahdi, Harit à droite et ou Abdallah. On lui avait dit ça avec Kondogbia qui est fait en cristal derrière et Aguirre qui est fait en cristal aussi. Non mais on lui avait dit ça. Il allait faire deux compétitions.
T'as vu le faciès de Lorenzi et Genesio, j'ai l'impression qu'ils ont pris 15 ans ou 2 mois. Ouais, c'est compliqué de travailler à l'Olympique de Marseille.
C'est pas de leur faute, hein, évidemment.
Ça va être difficile, ça va être stressant, on va dire. Très stressant. La question, c'est de savoir si tu penses ou non que Genesio était au courant de la situation avant de signer à l'Olympique de Marseille, ou bien même Lorenzi. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est catastrophique pour l'Olympique de Marseille s'il devait perdre. Encore plus Pechao, tu vois. J'étais dur avec lui, mais c'est peut-être le meilleur Marseillais depuis le début de cette saison.
Il a joué blessé, nous a dit Genesio aujourd'hui en conférence de presse lors du premier match contre Strasbourg. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe demain. Pechao.
Il y a peut-être 40 bâtons. C'est une blessure. Je pense qu'il y avait peut-être eu un coup de téléphone en disant les gars, si vous pouvez le mettre au congélateur comme une bonne glace Picard, ce sera très très bien quand même. Ce sera bien.
On va conclure là-dessus. C'est l'été des glaces avec Walid, évidemment. Merci Walid. Merci Max. Merci à tous. L'After revient demain soir, évidemment. Passez une très bonne nuit. Ciao.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.